Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. L'Union européenne fait face à l'épidémie de Covid depuis maintenant plus d'un an. Et celle-ci continue à faire des ravages, puisque l'Europe compte ainsi sur une année près de 23 millions de cas confirmés, dont plus de 550 000 décès recensés. Alors que des variants se multiplient, la campagne de vaccination peine à trouver son rythme de croisière et que les critiques se font de plus en plus pressantes, nous avons souhaité faire le point sur la stratégie vaccinale en Europe avec Tilly Metz, députée européenne du Luxembourg, membre du groupe des Verts. Bonjour Madame Metz.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Metz, vous êtes membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Et à ce titre, vous suivez l'évolution des politiques de l'Union pour lutter contre la pandémie et notamment la stratégie vaccinale. Pouvez-vous, en introduction, nous expliquer comment s'organise cette stratégie d'achat de vaccins par l'Union européenne et comment l'Union européenne et les laboratoires négocient ?
En fait, ces négociations ont commencé déjà l'été dernier et les premiers contrats ont été signés déjà en l'été dernier, puis en automne. Donc, c'est des contrats qui sont signés entre la Commission et les entreprises pharmaceutiques. Et le problème que j'énonce tout de suite, c'est que ces contrats ne sont pas publics. Maintenant, il y en a deux sur les six qui ont été conclus, qu'on peut regarder online. Mais ça se fait un peu dans une black box entre la Commission et ses entreprises pharmaceutiques, parce que même sur ceux qui ont été publiés, il y a des passages qui sont noircis. Et ce ne sont pas les moins importants qui ont été noircis. Donc tout ce qui est délai, tout ce qui est prix, tout ce qui est les détails des clauses de responsabilité. Donc ça nous pose problème. Mais en général, je dois quand même dire, le fait d'avoir fait des achats anticipés, des accords d'achat anticipés pour plus de 2,3 milliards de vaccins, c'est en soi une très bonne chose. Il y a seulement un peu ce problème de transparence sur les contrats qui pose problème.
Mais disons que le point positif, c'est que ça évite que les États, y ait une bataille entre États pour récupérer des vaccins. C'est essentiellement aussi cela qu'on a évité par l'achat groupé.
Exactement. Donc une répartition plus juste, un plus grand poids lors des négociations, parce qu'évidemment, vous avez plus de poids face à des entreprises pharmaceutiques, quand vous êtes 27 pays regroupés pour négocier les prix, pour négocier les conditions. Donc, c'est clair que ça, c'est un succès d'avoir réussi en un délai quand même très court d'avoir fait ces accords d'achat anticipés pour avoir assez de vaccins pour l'Union européenne. Et aussi, l'Union européenne s'est engagée à de la solidarité par rapport aux autres pays aussi.
Comme vous l'avez dit, sur les six contrats signés avec des laboratoires, seuls les contrats conclus avec CureVac et AstraZeneca, parce qu'il y a eu des problèmes de livraison, ont pour l'instant été publiés, dont de grandes parties ont été masquées, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous, en tant que députée européenne, vous souhaitez plus de clarté et de transparence. Estimez-vous que la Commission manque vraiment de transparence et quelles sont vraiment vos craintes derrière le fait qu'elle ne publie pas ?
Bah, le problème, c'est quand on n'est pas tout à fait transparent, ça génère le scepticisme. Les gens deviennent inquiets. Et c'est justement le contraire de ce qu'on veut atteindre. On veut que les gens aient confiance dans le vaccin, mais aussi dans les procédures qui sont derrière, qui sont dans toutes ces négociations. Et pour cela, il faut considérer les citoyennes et les citoyens européens comme des adultes et pas cacher certaines parties des contrats, parce que ça ne fait que générer la méfiance au lieu du contraire qu'on veut arriver à faire. Donc c'est ça qui m'inquiète, de par cette procédure qui est en partie opaque, que les gens deviennent méfiants, et ça pose problème évidemment.
La Commission européenne a fait l'objet donc d'autres critiques ces derniers jours, du fait déjà de ne pas être très transparente. C'est sur la livraison des vaccins qu'elle a commandé. Celle-ci tarde. Pensez-vous, comme certains l'affirment, que la Commission a commis des erreurs de priorité en négociant plus ce prix d'achat que les délais de livraison, ou il y a d'autres considérations qui expliquent ce retard? Il y en a certains qui disent aussi que c'est parce que l'Union européenne a voulu négocier des clauses de sécurité et a été plus attentive qu'elle a pris du retard.
Bon, est-ce qu'elle a fait une erreur? Moi, l'erreur, je l'ai déjà énoncée, c'est dans le manque de transparence, mais en général, on a pris plus de temps, oui, c'est vrai, mais je pense aussi que l'Union européenne a consacré plus de temps à l'analyse des données cliniques. Vous avez dit, de façon juste aussi, pour négocier le prix. Mais je pense qu'au total et au moyen terme, il n'y aura pas de problème qu'on fera un manque de vaccins pour l'Union européenne. Peut-être certains pays ont maintenant peut-être quelques semaines d'avance et encore. Mais je pense, moi je préfère, je dois dire honnêtement, une agence européenne du médicament qui se prenne le temps d'analyser les données cliniques, de négocier les clauses. Nous avons aussi fait le choix de travailler, ou la Commission a fait le choix de travailler avec 6 entreprises pharmaceutiques et donc un portfolio plus varié de vaccins. Donc je pense que cette stratégie était la bonne, mais il faut regarder maintenant aussi à moyen terme. Et ce que je n'ai pas dit tantôt, les contrats ont bien été signés entre la Commission et les entreprises pharmaceutiques, mais il y avait quand même 7 experts nommés par les États membres, et tous les États membres ont été consultés et leur accord était demandé. Donc c'est un peu pas très fair play maintenant si certains États membres font des reproches à la Commission sur ce point-là, parce qu'ils étaient aussi autour de la table lors des négociations.
Cette pénurie de vaccins semble raviver les tensions actuelles, hein, je dis bien à court terme, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment au niveau de la livraison des vaccins avec AstraZeneca. Est-ce que ça inaugure pas très mal l'après-Brexit, tout ça? Parce qu'on voit que finalement, le Royaume-Uni agit seul et surtout ne tient pas compte des bonnes relations avec l'Union européenne.
Bah, je pense, je ne vais pas me lancer maintenant dans une discussion de rivalité ou de conflit éventuel entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Vous savez, dans cette période-ci, nous avons un ennemi commun et c'est la pandémie, c'est lutter contre la Covid-19. Le reste, je pense que c'est vraiment pour le moment pas relevable dans cette crise sanitaire dans laquelle on vit actuellement.
Depuis le 31 janvier, les voyageurs souhaitant se rendre en France depuis le reste de l'Union européenne doivent présenter leur résultat d'un test PCR négatif de moins 72 heures. Que pensez-vous de ça? A été adopté aussi par d'autres États membres, hein, il y a une politique de restriction de libre circulation aux frontières. Que pensez-vous de ces nouvelles restrictions entre pays européens et vis-à-vis des pays extérieurs à l'Union européenne?
Bon, ce que je regrette, et c'est clair que je le regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à avoir une approche coordonnée au niveau des différents pays européens. Donc, pour moi, ça a mis en évidence très clairement qu'il faut pas moins de compétences dans le domaine de la santé à l'Union européenne, mais bien plus de compétences. C'est une crise mondiale. Et on est gagnant si on agit de façon coordonnée pour les mesures à prendre, qui sont peut-être très pertinentes par certains pays, mais ça aurait été beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, effectivement, d'avoir une approche plus coordonnée. Maintenant, de fermer partiellement les frontières au sein de l'Union européenne, je trouve que ça ne mène à rien, parce que un des piliers de l'Union européenne, c'est bien l'accord de Schengen, donc garantir la libre circulation, même si bien sûr, et ce que je trouve beaucoup plus important, c'est qu'on respecte les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, où que l'on soit, mais on sait très bien, ce n'est pas en fermant les frontières aux gens qu'on va réussir à... Ce n'est pas ça qui va aider à lutter contre la Covid-19. Au lieu de construire des forteresses, il vaut beaucoup plus miser sur la solidarité entre les pays et aussi avec l'extérieur de l'Union européenne.
Alors je disais en introduction, vous étiez députée européenne du Luxembourg. Au Luxembourg, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour se déplacer actuellement, puisque c'est un pays où il y a beaucoup de frontaliers français. Comment ça s'organise de votre côté? Est-ce que chez vous aussi, il faut un PCR négatif en général? Et pour ceux qui, cette fois-ci, travaillent, comment ça se passe?
En général, nous, au Luxembourg, on a mis en place un large scale testing, donc on effectue vraiment beaucoup de tests. On est dans la situation comme dans d'autres pays aussi, depuis les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, les bars sont fermés. Donc maintenant, on est dans une première phase de vaccination qui se passe assez bien au Luxembourg. Mais du coup, les frontières au Luxembourg ne sont pas fermées et il est conseillé, maintenant il est obligatoire en rentrant au Luxembourg avec l'avion d'avoir un test négatif. Jusqu'à il y a peu, on avait même des tests qu'on pouvait faire sur les aéroports. C'est depuis peu fermé, mais il faut un PCR négatif en rentrant, en venant avec l'avion au Luxembourg.
Et pour les voies terrestres, ça reste comme il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'on peut entrer sur le territoire pour faire ses courses et repartir sans avoir de contrôle ou de justificatif à donner.
Oui, le Luxembourg est un pays, d'abord on a beaucoup de frontaliers qui viennent régulièrement au Luxembourg, donc on a besoin, et je profite d'ailleurs pour les remercier, tous les frontaliers qui viennent régulièrement dans notre pays, qui travaillent que ce soit dans les centres de soins, dans les supermarchés. Donc on a toujours défendu l'idée que fermer les frontières, ce n'est pas la bonne solution, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue de lutte contre la Covid.
Alors, une des solutions pour réintroduire un petit peu cette circulation libre dans l'Union européenne, certains parlent de cette idée d'un passeport vaccinal, notamment pour les déplacements durant l'été. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, vous, en tant que députée européenne, mais aussi votre groupe des Verts? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée d'un passeport ou d'un certificat vaccinal?
Encore une fois, là, on mise tout sur la vaccination, qui est certes un élément important de lutte contre la COVID-19, mais tant qu'on ne sait pas si à travers un vaccin, on arrive à avoir une immunité, donc une stérile immunité, c'est-à-dire qu'on ne transmet plus le vaccin, tant qu'on ne sait pas combien de temps ce vaccin va être efficace, et puis surtout, sachant qu'une partie de personnes ne pourront pas être vaccinées dû à leur situation médicale, où il y a aussi des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais on est dans une situation où, comme si on introduit un passeport vaccinal, ça donne un peu l'idée, alors tout est possible, alors qu'il faut beaucoup aussi penser à d'autres mesures alternatives, comme je l'ai dit, le large scale testing, etc. Et je pense qu'un passeport vaccinal, surtout s'il est digitalisé, donc si toutes mes données sont enregistrées digitalement, risque vraiment aussi de conduire non seulement à une question de protection des données, mais aussi à une certaine discrimination. Est-ce que ça veut dire, si j'ai un passeport vaccinal, que je peux passer, comme le terme le fait sous-entendre, à certains endroits et à d'autres endroits pas? Est-ce que ça limite mon possibilité de voyager si je n'ai pas ce passeport vaccinal? Est-ce que ça limite d'aller à certains services publics, attractions touristiques ou culturelles? Et avec ça, j'ai un problème parce qu'on sait très bien que pas toutes les personnes pourront être vaccinés, et on a aussi le problème qu'on ne peut pas vacciner tout le monde au même moment. Donc il y aura forcément de grands décalages entre qui sera vacciné quand, et comme je l'ai dit, certaines personnes ne seront même pas dans la possibilité d'être vaccinées. Donc moi, je suis sceptique par rapport à ce passeport vaccinal parce qu'il y a un grand risque par la suite de discrimination. Donc, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura ce passeport vaccinal et est-ce que ça ne mènera pas à une discrimination alors d'accès?
Alors, avant de faire une pause musicale, je voulais vous poser une dernière question. Vous y croyez, vous, aux 70% de personnes vaccinées en Europe à la fin de l'été?
C'est un objectif qui est très clairement formulé par la Commission. Là, du coup, j'ai pas de boule de cristal sur moi, mais je me dis quand même, c'est probablement réaliste, mais on ne sait pas comment on est assez livré à ces grandes entreprises pharmaceutiques, et j'espère d'ailleurs que c'est une des leçons qu'on tirera aussi de cette crise, de ne plus être si dépendant des entreprises pharmaceutiques, parce que c'est aussi une question de production, de livraison, d'organisation stratégique, mais voilà, donc c'est difficile à dire, mais je suis quand même optimiste.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Je vous ai demandé avant l'émission de choisir un titre musical et vous avez choisi Francis Cabrel avec La Corrida. Pourquoi ce choix?
Ah ben, parce que d'abord j'adore Francis Cabrel, et puis mais deuxièmement la chanson, tout particulièrement celle-là, il y a un changement de perspective parce qu'on est dans la peau du taureau qui se fait la massacrer cruellement et qui ne comprend rien. Et je trouve que c'est une chanson qui doit sensibiliser à la situation, de changer un peu de perspective et de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ici du taureau.
Ah, je vous propose d'écouter, on reviendra sur la protection des animaux puisque vous présidez une commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport au Parlement européen. On écoute le titre de Francis Cabrel et on reprend l'émission.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas. Y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Le, le, le.
Alors, on voit bien avec ce titre que vous êtes vraiment engagé sur la protection animale. La notion de bien-être animal est inscrite dans l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles depuis maintenant plusieurs décennies. Des récentes images montrent toujours les calvaires des bovins transportés dans le monde entier. On a vu des images en Afrique, au Moyen-Orient, avec des conditions sordides. Vous présidez une commission d'enquête qui a été ouverte, je crois, l'année dernière, sur la protection des animaux pendant le transport. Celle-ci vient de publier, je crois, un livre blanc sur le sujet. Quelles sont les conclusions que vous tirez en ce moment de ce rapport et que proposez-vous pour remédier à la souffrance animale pendant le transport ?
En fait, je dois rectifier un peu. Il y a un intergroupe sur le bien-être animal au Parlement européen, dont je suis la vice-présidente, et c'est l'intergroupe, qui regroupe différents parlementaires du Parlement européen qui a publié ce rapport. Ce n'est pas encore la commission d'enquête, mais je sais, au Parlement européen, tout est un peu parfois compliqué à comprendre. Donc, c'est bien eux, cet intergroupe du Parlement européen qui a publié ce livre blanc, et parce que la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport, on est en plein travail. Et je précise, effectivement, j'ai l'honneur et je suis très contente de pouvoir aussi agir dans ce domaine. Et notre rapport, on va le publier, comme on a reçu maintenant une première extension, on pourra le publier le 19 septembre de cette année-ci. Donc là, pour le coup, on est en train d'analyser la situation parce que d'un côté, vous avez tout à fait raison, on sait qu'il y a des problèmes concernant la protection du bien-être animal pendant le transport. On le sait à travers les ONG, mais on le sait à travers aussi les institutions européennes qui ont fait des audits. Donc, le fait est là. Maintenant, on doit analyser jusqu'à quel point ces violations de la réglementation existante de 2005 sur le transport des animaux, jusqu'à quel point ces violations sont systémiques et systématiques et qui en est vraiment responsable. Et puis, on aura l'occasion aussi de faire des recommandations pour la révision de cette régulation sur les transports des animaux parce qu'il y a entre-temps, entre 2005, l'année de cette régulation, maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué du point de vue scientifique. On sait maintenant sur les besoins des animaux. Et comme la Commission a annoncé qu'il faut une révision de cette régulation, c'est aussi une opportunité d'amener des changements dans cette régulation sur le transport des animaux. Et ce que moi, j'espère vraiment, comme dans le traité, le bien-être animal est ancré, dans le traité européen, dans l'article que vous avez annoncé, 13, il faut vraiment qu'on soit cohérent ici et qu'on commence à beaucoup plus respecter le bien-être animal au niveau européen et même à inciter à en faire de même au-delà.
Et concrètement, votre commission d'enquête, elle a quel type de pouvoir ? Elle peut auditionner qui elle le souhaite ? Comment ça s'organise ?
Mais là, du coup, on fait effectivement des hearings. On fait donc, on entend différents experts du terrain, mais aussi des institutions européennes, des États membres de la Commission. Donc, on entend différents, mais bien sûr aussi les ONG qui sont sur le terrain, qui nous apportent pas mal de vidéos et de témoignages. Mais nous, en tant que commission d'enquête, on va aussi sur le terrain. Bon, là, c'est un peu compliqué en temps de Covid. C'est une des raisons pour lesquelles on a demandé aussi une extension de cette commission d'enquête, parce qu'une commission d'enquête doit aussi aller sur le terrain, sur les ports, sur les places où les animaux sont rassemblés, où ils sont transférés d'un camion à l'autre, ou du camion au bateau. Donc il faut qu'on aille aussi sur le terrain. Mais là, on parle avec différentes instances qui sont impliquées dans tout ce transport d'animaux, parce que le transport d'animaux est aussi symptomatique de notre, en général, de notre chaîne alimentaire qui est quand même un peu absurde. Hein. Il y a une place où l'animal est né, puis il est engraissé à un autre endroit, il est slaughtered, il est abattu à un autre endroit, il est emballé à un autre endroit. Donc on trimballe les animaux à travers toute l'Europe et aussi en dehors de l'Union européenne, ce qui pose des problèmes très particuliers parce que, en fait, on devrait garantir le bien-être animal jusqu'à la destination. Mais qui garantit le bien-être animal des animaux sur les bateaux et les images affreuses qu'on a reçues? Qui contrôle? Et comment les contrôles sont faits aussi dans les ports, comme je l'ai dit, dans les endroits de rassemblement des animaux? Est-ce que c'est vraiment fait de façon à vraiment pouvoir contrôler le bien-être animal? Et nous, on est très clairement, ça je peux déjà le dire maintenant, si on ne peut pas garantir le bien-être animal jusqu'à lieu de destination, qui n'est pas le port, mais souvent il est encore, alors dans des pays en dehors de l'Union européenne, il est encore conduit à d'autres endroits, donc on doit se demander si on ne peut pas garantir le bien-être animal, est-ce qu'on ne devrait pas alors interdire ces exportations si le bien-être animal ne peut pas être garanti?
Mais pour finir, et à titre un petit peu plus personnel, vous ne mangez plus de viande, j'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux, vous êtes végétarienne, à titre personnel.
Oui, c'est ça. Je suis végétarienne, oui. Mais je dois dire honnêtement, moi je suis végétarienne, je crois, plus ou moins depuis une dizaine d'années maintenant, mais ce n'est pas pour ça que moi je ne suis pas radicale dans ce sens-là. Moi je serais déjà hyper heureuse si on arriverait, pour l'environnement, pour le bien-être animal, mais aussi pour la santé humaine, à réduire notre consommation de produits animaliers. Moi, je suis pas maintenant, si on veut protéger les animaux, moi, je suis contente quand les gens deviennent végétariens ou végans, mais c'est pas une doctrine, vous savez. Réduire notre consommation de produits animaliers, comme le demandent les scientifiques, l'idéal serait de le réduire de 50%, ce serait déjà génial.
Oui, il y a un plan de lutte contre le cancer qui incite, de l'Union européenne, qui incite aussi à réduire, pour des questions de santé, la consommation de viande rouge. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, vous qui êtes dans la commission santé, qui est aussi un élément que l'Union européenne essaye de, non pas de promouvoir, mais qui essaye de faire en sorte que dans toute l'Union européenne, on sensibilise les gens à l'aspect cancérigène de la viande rouge.
Tout à fait. Je suis très contente que vous l'évoquiez. Je suis aussi membre suppléante dans la commission spéciale de lutte contre le cancer et je suis bien contente que vous évoquiez cela. On l'oublie souvent que la viande rouge contribue très clairement à l'émergence des cancers et on ne l'oublie pas assez souvent, à mon avis.
Merci, Madame Tillimetz, de nous avoir donné toutes ces informations et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail parlementaire. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.